Voix Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 12 février 2021. Bonjour, bienvenue. Les forces pro-gouvernementales en Centrafrique ont repris la ville frontalière de Beloko, ouvrant ainsi l'axe de ravitaillement vital reliant la capitale Bangui au Cameroun, que des groupes armés rebelles bloquaient depuis le début de leur offensive en décembre. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, plus de 1600 camions sont bloqués à la frontière avec le Cameroun, dont 500 d'aide humanitaire. Un seul soldat a été blessé dans les opérations de l'armée sénégalaise contre la rébellion en Casamance, dans le sud du pays. C'est ce qu'a annoncé jeudi soir le gouvernement dans un communiqué officiel. Cet incident est survenu le 3 février lorsqu'un militaire a reçu un éclat qui lui a causé une légère blessure au bras lors de heurts entre des soldats et des rebelles près de la Guinée-Bissau voisine, a précisé l'armée dans ce communiqué. C'est le premier bilan humain officiel des opérations de sécurisation entamées le 26 janvier par l'armée sénégalaise en Casamance, est toujours en cours. Le pétrolier détourné il y a deux jours dans le golfe de Guinée, épicentre mondial de la piraterie maritime, a été libéré et s'approche de la Guinée équatoriale avec tout son équipage sain et sauf, a annoncé jeudi le groupe français Total, propriétaire de sa cargaison. En revanche, il n'y avait aucune nouvelle des 14 marins du thonier chinois attaqué dimanche, sans doute par les mêmes pirates qui s'en sont servis depuis comme bateau-mère pour plusieurs tentatives de détournement de pétroliers, rapporte Dryad Global, société spécialisée dans la sécurité maritime. Un deuxième décès causé par la maladie à virus Ebola a été enregistré dans une région de l'est de la République démocratique du Congo après la récente réapparition de la maladie. Selon le Bureau de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, dans le pays, au 10 février, la notification d'un deuxième cas confirmé d'Ebola a été enregistré dans l'aire de santé de Massoya. Il s'agit d'une cultivatrice de 60 ans décédée le 10 février 2021, ayant un lien épidémiologique avec le premier cas dans la zone de santé de Biéné, province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC, a indiqué l'OMS. Dimanche, le ministre de la Santé a annoncé la résurgence d'Ebola dans cette région après le décès d'une autre cultivatrice, épouse d'un survivant de la maladie à virus Ebola. Les décès dus au COVID-19 en Afrique ont augmenté de 40% en un mois. C'est alarmé jeudi l'Organisation mondiale de la santé en s'inquiétant du sort d'un continent confronté à de nouveaux variants plus contagieux. Plus de 22 300 décès ont été signalés en Afrique au cours des 28 derniers jours, contre près de 16 000 décès au cours des 28 jours précédents. C'est inquiété le bureau Afrique de l'OMS, dont le siège est à Brazzaville au Congo. Cette situation survient alors que le continent se bat contre de nouvelles variantes plus contagieuses et se prépare pour sa plus grande campagne de vaccination jamais organisée, a fait savoir l'agence onusienne à l'issue d'une conférence de presse virtuelle. Coronavirus toujours, l'Afrique du Sud dit qu'elle va endiguer et surmonter la pandémie en dépit du report de la campagne massive de vaccination initialement prévue cette semaine. C'est une promesse de son président Cyril Ramaphosa jeudi soir dans son discours annuel à la Nation devant l'inefficacité présumée du vaccin britannique AstraZeneca. Le gouvernement sud-africain leur a préféré des vaccins Johnson & Johnson, dont le premier lot, 80 000 doses, arrivera dans le pays la semaine prochaine. La première phase de la nouvelle campagne, qui doit cibler soignants et travailleurs en première ligne, a expliqué le président devant le Parlement. Le président américain Joe Biden prévoit de s'entretenir bientôt avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, a déclaré jeudi la Maison-Blanche, sans être en mesure d'indiquer pour le moment une date pour cet entretien. Le fait que M. Benjamin Netanyahou ne fasse jusqu'à présent pas partie des dirigeants étrangers avec lesquels Joe Biden s'est entretenu depuis son investiture le 20 janvier a fait sourciller en Israël et parmi les experts du Moyen-Orient. VOA Afrique en ligne, VOA Afrique Info, en ligne de mire dans ce journal, procès en destitution de Donald Trump. Les avocats de l'ancien président américain livrent leur plaidoyer aujourd'hui, vendredi. Sénégal, début de la procédure pour lever l'immunité d'un opposant accusé de viol et manifestation demain samedi au Nigeria, risque de violence très élevée selon les autorités. Jean-Roger Billon, on revient dans un instant, nous émettons de Washington. La suite de nos informations ce vendredi 12 février 2021. On commence par les États-Unis. Les avocats de Donald Trump prennent la parole ce vendredi dans le procès au Sénat pour incitation à l'insurrection visant l'ancien président. Les procureurs démocrates ont clôturé hier leurs arguments. Abdourahman Dia.
L'accusation a fini d'exposer hier jeudi ses arguments pour tenter de convaincre les sénateurs que Donald Trump a bel et bien incité ses partisans à envahir le Capitole le jour de la certification des résultats de la présidentielle. Son successeur, le président Joe Biden, a estimé que certains élus pourraient avoir changé d'avis après la diffusion des vidéos de surveillance montrant les événements du 6 janvier. « Je pense que certains ont peut-être changé d'avis », a-t-il déclaré depuis le bureau Oval, laissant entendre que des élus républicains pourraient décider de déclarer l'ancien président coupable. Mêlant des extraits de caméras de surveillance parfois inédits aux vidéos mises en ligne par les émeutiers, les procureurs démocrates ont rappelé aux 100 sénateurs, à la fois juges, jurés et témoins, qu'ils avaient eux-mêmes échappé de peu au pire. Donald Trump reste très populaire dans une partie de l'électorat et exerce encore une forte influence sur le parti républicain. Si une poignée de sénateurs républicains se sont dit prêts à le condamner, il semble peu probable que 17 se joignent le. Leur voix aux démocrates pour le déclarer coupable. Les avocats de Trump ont à leur tour 16 heures pour défendre leurs clients à partir de l'après-midi ce vendredi.
Au Sénégal, le bureau de l'Assemblée nationale a acté la suite de la procédure de levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko, accusé de viol et menace de mort par une masseuse du nom de Hadji Sarr. Des faits réfutés par l'opposant qui accuse le pouvoir d'être derrière un complot visant à l'écarter de la présidentielle de 2024. Une affaire politico-judiciaire qui est maintenant entre les mains de ses collègues parlementaires. Les détails avec notre correspondant à Dakar, Seydina Bagay.
Les députés membres de la commission des lois de la décentralisation du travail et des droits humains sont convoqués en réunion ce lundi 15 février à 10h. Ils vont constituer une commission ad hoc qui va statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de l'opposant Ousmane Sonko. Ce dernier est accusé de viol répété et menace de mort par une masseuse d'un institut de beauté de Dakar. Ayant refusé de déférer à la convocation de la section de recherche de la gendarmerie, le député Ousmane Sonko, qui a invoqué son immunité parlementaire, sera obligé de faire face au juge d'instruction si l'Assemblée nationale décide de la levée de son immunité. Ses avocats, qui ont saisi le président du Parlement, espéraient une analyse de certains éléments du dossier avant la poursuite de la procédure, mais ils n'ont pas eu gain de cause. La levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko est donc entre les mains de la commission ad hoc, qui sera formée dès lundi matin. Seydina Abagay à Dakar pour VOA Afrique.
Au Nigeria, les autorités ont mis en garde les jeunes qui prévoient de se rassembler demain samedi à Lagos pour réclamer justice après la sanglante répression de la manifestation contre les violences policières en octobre dernier. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Nous avertissons avec force ceux qui prévoient de réoccuper le péage de Lekki samedi et les appelons à se désister, a déclaré Aladjile Mohamed, ministre de l'Information. Il a ajouté que les chances pour qu'un rassemblement pacifique dégénère sont fortes, affirmant que des activistes nigérians sont en lien avec d'autres à l'étranger, avec pour objectif de déstabiliser le pays. Aucune nouvelle violence au nom de Indasras ne sera tolérée cette fois. Les agents de sécurité sont prêts à toute éventualité, a-t-il averti. Plusieurs grandes villes du pays ont été secouées en octobre par une vague de manifestations pour le démantèlement d'une unité de police, la brigade spéciale anti-vol Ousras, accusée de nombreuses exactions. Ce mouvement baptisé Indasras a été réprimé le 20 octobre à Lagos lorsque les forces de sécurité ont tiré sur la foule rassemblée au péage de Lekki, tuant au moins 10 personnes selon Amnesty International. Près de 4 mois après cette fusillade, des figures du mouvement ont appelé sur les réseaux sociaux à se rassembler demain samedi au péage de Lekki pour réclamer justice alors que les responsables de la tuerie n'ont pas encore été jugés.
C'est à présent l'heure de la Minute Éco, présentée par Claire Morin-Gibou.
La crise sanitaire du Covid-19 a eu un fort impact sur le fret aérien international. En 2020, la demande a décliné dans toutes les régions du monde, sauf en Afrique, où les transporteurs se sont montrés assez résilients. Les transporteurs d'Afrique détiennent maintenant la même part du marché mondial de fret que les transporteurs d'Amérique latine, soit 2,4% selon l'IATA qui regroupe quelques 290 compagnies aériennes. L'organisation de protection de l'environnement Greenpeace a demandé hier au président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, d'ordonner l'annulation immédiate de 4 contrats forestiers couvrant près de 778 000 hectares, 3 dans la province de Mai-Ndombe dans le sud-ouest et une dans la province du Bas-Ouélé dans le nord. Pour l'ONG, ces 4 contrats représentent une violation du moratoire institué en 2002 sur l'attribution de nouvelles concessions forestières en RDC. La plus vieille banque des États-Unis, Bank of New York Mellon, se met à la page. L'établissement a annoncé hier se lancer dans le dernier produit financier à la mode, le Bitcoin. Fondée en 1784, la société BNY Mellon a créé une nouvelle unité dédiée aux crypto-monnaies et travaille actuellement sur le développement d'une plateforme pouvant les conserver et les administrer.
Et maintenant, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Début des matchs de poule de la Ligue africaine des champions ce soir. Le groupe A entre en compétition à 19h temps universel. L'AS Vita Club de la République démocratique du Congo reçoit le SC Simba de la Tanzanie pour le compte de cette première journée. Pour un début à domicile au stade des Martyrs de Kinshasa, Florent Ibengue et ses poulains voudront prendre les 3 points et mieux rêver à une coupe une seconde fois 45 ans après le premier sacre des dauphins noirs. Dans l'autre match du groupe A, les Égyptiens du Zamalek reçoivent les Algériens d'Al-Merrekh. Le Bayern Munich a achevé hier un grand chelem de 6 titres consécutifs en moins d'un an en remportant la finale du Mondial des clubs au Qatar 1-0 contre les Tigres mexicains grâce à un but du Français Benjamin Pavard. Les Allemands rejoignent dans l'histoire le FC Barcelone de 2009, la seule équipe avant eux à avoir gagné la même année Coupe Championnat et Supercoupe Nationale, Ligue des Champions, Supercoupe d'Europe et Mondial des clubs. Dans le match pour la 3e place, le champion d'Afrique Al Ahly d'Égypte s'est imposé en battant au tir au but 3 tirs réussis contre 2, les Brésiliens de Palmeiras. Après un match animé mais sans but, le règlement prévoyait une séance de tir au but à la fin du temps réglementaire, sans prolongation, éliminé en demi-finale par le Bayern Munich 2-0. Al Ahly se classe 3e de ce tournoi pour la 2e fois de son histoire. Après 2006, ici aux États-Unis, la nouvelle saison du championnat nord-américain de football qui devait débuter le 3 avril prochain commencera le 17 avril après que le syndicat des joueurs a accepté la proposition de la Ligue de prolonger de 2 ans la convention collective en vigueur, soit jusqu'en 2027, pour faire face aux pertes économiques liées à la pandémie de COVID-19. Cet accord assure que les joueurs recevront 100% des salaires et des bonus en 2021. Bien que la MLS s'attende à une autre année marquée par des pertes financières. NBA, les Toronto Raptors du Camerounais Pascal Siakam qui ont débuté leur saison à domicile à Tampa en Floride en raison des restrictions liées à la pandémie actuellement imposées par les autorités canadiennes la finiront en Floride, a annoncé l'équipe championne NBA en 2019. Le gouvernement canadien exige en effet que toutes les personnes effectuant des voyages non essentiels observent une 14aine à leur arrivée sur le territoire, une mesure qui rend impossible les étapes des équipes visiteuses provenant des États-Unis, censées rester une poignée de jours à Toronto pour y affronter les Raptors.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Processus de paix au Mali. Les partenaires de l'accord d'Alger se sont réunis jeudi pour la première fois dans la ville symbole de Kidal afin d'en faire avancer
l'application. Pour les enjeux de cette rencontre, Modibo Dembélé a joint Sidi Amar, résident de la ville de Kidal.
Bon, ça se passe très bien sous un bon climat parce que, il faut le dire, c'est une session où la SEMA tenait beaucoup à ce que ça soit. C'est une guerre Kidal depuis le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta était au pouvoir. Donc c'est une très bonne initiative. C'est à la demande de la SEMA pour essayer de mettre en œuvre l'accord de paix issu du processus d'Alger auquel la stabilité et la paix au niveau du Mali est vraiment nécessaire.
La délocalisation de la rencontre du comité de suivi de l'accord à Kidal pourra-t-elle être une solution ultime pour accorder les violons entre les autorités du Mali et les groupes armés lorsque nous savons qu'au même moment, beaucoup de Maliens demandent l'application des recommandations issues du dialogue national inclusif et de la conférence d'entente nationale?
Bon, tout à fait, parce que pourquoi la junte militaire qui est arrivée au pouvoir a pris la décision, n'est-ce pas, d'essayer de réunir tout le monde pour essayer d'avancer sur le processus d'accord de paix? Moi, je pense qu'il y a certains aspects dans l'accord qui ne méritent pas d'être révisés. Je pense qu'ils vont surtout se pencher sur ces différents aspects-là. Ceux qui méritent d'être modifiés lors de l'entente, de la conférence d'entente nationale vont être modifiés juste après. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est d'essayer, n'est-ce pas, de faire bouger, ne serait-ce qu'une seule chose dans l'accord qui va pouvoir être amené la paix et que, qu'on puisse voir la stabilité revenir au Mali et ensuite. Et certainement, ils vont se pencher sur les autres aspects qui contiennent l'accord.
Pensez-vous que ça pourrait être un bon signe pour l'application finalement de l'accord après plus de 5 ans?
Tout à fait. La SEMA étant l'un des belligérants et qui a tant demandé cette tenue de la CSA Kidal, c'est pourquoi elle a fait en fait. Elle veut tout simplement que les différentes parties prenantes à l'accord puissent venir à Kidal et expliquer aux populations de Kidal le contenu de l'accord et les montrer aussi qu'ils ont la bonne volonté d'appliquer cet accord-là. Donc ça met en confiance un peu la population et toutes les parties. Pour leur dire que venir à Kidal, on tient la conférence et le CSA à Kidal et que les populations sont là, elles sont attentives à ce que vous allez dire. La raison pour laquelle depuis les préparatifs jusqu'à ce jour d'aujourd'hui où elle se tient, il n'y a pas eu de manifestation et tout le monde était content en fait.
Sidi Amar, résident de la ville de Kidal au Mali.
Restez avec nous à Bamako au Mali sur le 102 FM CVO Afrique 24 heures sur 24.
10 ans après la chute de Muammar Kadhafi, la crise en Libye a eu des effets néfastes sur les pays voisins et le Sahel. La désignation d'une autorité exécutive unifiée pour diriger la transition à Tripoli a ravivé l'espoir d'une stabilisation progressive de la région. Eric Manirakiza a joint à Abidjan le journaliste nigérien Sedi Kaba, spécialiste du Sahel.
Tout ce mal-là a été aggravé par la crise libyenne, puisque après la chute de Kadhafi, certains Maliens sont revenus, ont lancé la rébellion et de fil en aiguille, on est arrivé à l'occupation du nord du Mali par des djihadistes à la faveur justement de ce qui se passe en Libye. Donc si la Libye se stabilise, ça devient une raison d'espérance, un motif d'espoir pour les pays du Sahel, les pays du G5 Sahel. Vous savez que des pays comme le Niger, le Tchad, qui sont dans le G5 Sahel sont frontaliers de la Libye et c'est à partir du territoire libyen que beaucoup de choses se passent. Même le Mali qui n'est pas frontalier direct de la Libye, les choses transitent par le Niger pour aller à Libye. Donc c'est dire dans l'ensemble que toute évolution positive de la situation en Libye crée un élan d'espoir au Sahel parce qu'on ne résout pas la crise au Sahel si on ne résout pas la crise en Libye.
Pendant les 10 années, est-ce qu'il y a-t-il eu des évolutions positives sur le Sahel où la situation a évolué en dents de scie?
Il y a eu des périodes où, lorsque, par exemple, le contrôle du Sud a été repris par le maréchal Khalifa Haftar, il a pu empêcher que des mouvements djihadistes s'infiltrent dans les pays voisins de la Libye à partir de la Libye. Mais ça, c'est un îlot, on peut dire même c'est quelque chose de totalement marginal par rapport à la situation depuis la chute de Kadhafi. Depuis 10 ans, la Libye est devenue le refuge des groupes djihadistes qui s'infiltrent et qui ont des connexions avec Boko Haram, qui ont des connexions avec le mouvement du Nord Mali. Il n'y a pas eu vraiment un contrôle territorial de l'autorité de transition en Libye sur l'ensemble du territoire. Et ça a affaibli le Sahel. Parce que pendant ces 10 années, le trafic d'armes a pu se faire à partir de la Libye vers ces différents fronts-là, vers ces mouvements mouvement djihadiste. Globalement, le Sahel a continué à vivre, à subir la situation en Libye qui n'a pas été positive, à part quelques périodes où l'autorité, où les pouvoirs libyens ont, les différentes parties libyennes ont pu s'entendre. Je pense notamment à l'accord de Skhirat qui a été signé en décembre 2015 avec le soutien des Nations Unies. Mais cet accord n'a pas permis d'éviter que la Libye s'enfonce dans la crise. Et à chaque fois que la Libye s'est enfoncée dans la crise, il y a eu des conséquences sur le pays du Sahel. Particulièrement, on peut même citer le cas du Tchad où une rébellion armée a pu partir à partir du sud libyen pour attaquer les autorités tchadiennes. Et aujourd'hui encore, et du côté du Tchad, on redoute que les personnes qui sont réfugiées dans le sud libyen puissent porter des attaques. Il n'y a pas longtemps, il y a un front de libération, un mouvement armé nigérien qui s'est installé dans le sud libyen et qui a menacé d'attaquer le Niger.
Le journaliste Sedi Kaba, spécialiste du terrorisme dans le Sahel.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
L'accord tripartite entre le Cameroun, le Nigeria et le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, pour le départ volontaire des réfugiés du camp de Minao dans la région de l'extrême nord a été signé mercredi en présence du ministre camerounais de l'administration territoriale et du gouverneur de l'État de Borno au Nigeria. Minao est le plus grand camp de réfugiés nigériens au Cameroun qui fuit les exactions des djihadistes. Le reportage d'Emmanuel Julentap.
Un air de fête dans le village Minao, dans la région de l'extrême nord du Cameroun, où un camp de réfugiés est ouvert depuis juillet 2013 pour les populations victimes du mouvement Boko Haram. Ce jour, les autorités camerounaises, nigérianes et du HCR visitent le camp de réfugiés en prélude au départ volontaire de 5096 réfugiés nigérians. Les premiers convois d'après l'accord de rapatriement sont prévus entre le 27 février et le 7 mars 2011, à la grande satisfaction des candidats au départ.
Je suis très content parce que je suis prêt au retour. C'est pourquoi on est content.
Nous sommes contents aujourd'hui parce qu'il y a certains gens qui vont entrer dans notre pays. Parce que nous avons prouvé qu'il y a l'été maintenant dans nos villages.
Un départ tant espéré, malgré les bons souvenirs du Cameroun, leur terre d'accueil depuis 2013. Lucas Isaac, représentant des réfugiés nigérians du camp de Minao.
Nous avons de bonnes relations avec les communautés hôtes. Il y a des problèmes. Il y a seulement eu au départ l'incompréhension de la langue parce qu'on ne comprenait pas leur langue. Mais maintenant, nous sommes un, nous vivons en paix. Ils savent que nous sommes des frères, nous sommes de l'extrême nord du Nigeria. Eux, ils sont de l'extrême nord du Cameroun. Donc c'est seulement les frontières qui nous ont séparés, nous sommes le même peuple.
Le gouverneur de l'État de Borno au Nigeria a effectué le déplacement du Cameroun pour assurer ses compatriotes des mesures prises dès leur retour. Oumarou Zouloum Babangana, gouverneur de l'État de Borno.
Le gouvernement du Nigeria ainsi que le gouvernement local ont fait tout ce qui est possible pour assurer un retour en toute sécurité de nos réfugiés et ce, de différentes manières. Nous avons mis en place les moyens nécessaires, particulièrement en termes de logement, d'accès à l'eau, aux soins médicaux et à l'éducation.
Plus de 66 000 réfugiés nigérians vivent dans le camp de Minao. Cette population comprend 62% de mineurs, moins de 18 ans, et 54% de femmes et filles, selon le HCR. C'est le ministre de l'administration territoriale, Paula Tanganji, qui a signé l'accord de rapatriement volontaire au nom du gouvernement camerounais.
Vous avez vous-même constaté la joie des populations. C'est une volonté manifeste. Il y a pas mal de réfugiés, bien que très bien encadrés au Cameroun, aimeraient rentrer au Nigeria. Voilà pourquoi tout le monde est là aujourd'hui pour qu'on puisse mettre ensemble les instruments légaux pour encadrer ce départ volontaire.
Un premier contingent de 130 réfugiés nigérians ont quitté le Cameroun par avion en 2019 pour entrer dans l'État de l'Adamawa au Nigeria. Yaoundé, Emmanuel Jeuntap, VOA Afrique.
Direction le Togo, où notre correspondante à Lomé nous emmène à la découverte d'un marché pas comme les autres, le marché des bouteilles. C'est jour de marché aujourd'hui, vendredi. Avec son micro, Kai Lawson se ferait un chemin dans les allées de ce grand marché au cœur de la capitale togolaise. Découverte.
Le marché de bouteilles de Kodomé à Lomé s'anime tous les vendredis. Dans cet espace commercial assez particulier, tout type de bouteilles y sont proposées. Qu'elles soient en plastique ou en verre, issues du milieu hospitalier, du cosmétique ou de l'alimentation, aucun type de bouteille n'est absent à l'appel. Des contenants d'antibiotiques injectables aux liqueurs, en passant par des bouteilles d'eau minérale ou des déodorants, vous y trouverez tout. Les bidons et les tonneaux sont aussi au rendez-vous. Justine Atidogbe, présidente des commerçants du marché des bouteilles.
Nous sillonnons des différents quartiers de la capitale en faisant du porte-à-porte pour acheter les bouteilles vides. Le travail de collecte fini, nous les ramenons ici au marché pour les vendre. Nous avons aussi des fournisseurs qui nous les ramènent aussi directement sur le site ici. Nos clients viennent de Cotonou, du Ghana et d'autres des marchés périphériques de la ville.
Derrière son masque, à Kossiwa Agbodjan, la cinquantaine à peine entamée a le regard vers l'horizon. Avec la COVID-19 et la fermeture des frontières terrestres, les activités au marché de bouteilles tournent au ralenti. Elle témoigne.
Rien ne va dans le marché. Depuis plus de 5 mois que j'ai ce stock, j'ai du mal à couler. La pandémie ne nous a pas fait de cadeau. Nos clients se plaignent de la mévente. Tant qu'ils ne coulent pas leurs marchandises et ils ne peuvent pas revenir en acheter. Pire, nos clients de l'extérieur ne viennent plus.
Certains affirment que ce marché approvisionne le circuit de la contrefaçon. Les commerçantes s'en défendent et expliquent qu'elles font plutôt un travail de protection de l'environnement. À Kossiwa, à Bodjan,
nous sommes très maltraités et on nous accuse de tout, mais à travers ce que nous faisons, nous rendons la ville propre.
Justine Atinobi.
En temps normal, ces bouteilles vont se trouver sur les dépotoirs à ciel ouvert. Ils seront soit brûlés ou enfouis, polluant ainsi l'environnement. C'est notre manière de rendre le cadre de vie agréable.
Les bouteilles achetées sur le site servent dans d'autres domaines, affirment les commerçantes. Marie Anakpo est revendeuse de bouteilles au marché d'Adidogomé, à Sieye.
Les bouteilles en plastique servent de contenant pour les détaillants d'huile végétale, pour les jus faits maison. Pour les bouteilles en verre, elles servent dans la pharmacopée, dans la vente illicite de carburant et aussi de contenant pour les amuse-gueules.
Kai Amé, la trentaine, a pris le relais de ce commerce familial il y a 12 ans. Elle constate une dégradation de ses revenus.
Nous achetons 12 bouteilles vides d'eau minérale, 1 litre 5, à 1000 francs CFA que nous revendons 1200 francs. C'est dans ces 200 francs que nous devons enlever le transport avant de dégager notre bénéfice. Ce commerce n'est plus rentable, nous sommes en survie.
Après avoir fini de faire ses achats et les avoir emballés dans des sacs de jute, la jeune dame les entasse dans un taxi de 5 places pour son site de revente. Kyle Son, nommé VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Présentation Jean-Roger Billon, mise en onde Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité.